Bonjour mes frères et sœurs, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Malachie chapitre 4 et je lis à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il, donc Élie, ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que nous sommes sur terre aujourd'hui? Nous vivons l'époque la plus importante de l'histoire de ce monde. Jésus va revenir bientôt pour enlever son épouse. Ensuite, il va y avoir une tribulation terrible pendant 7 ans, et puis ensuite Jésus va revenir établir son royaume sur cette terre. Pour le moment, il vient pour ôter son église de la terre. Bien sûr, il y aura toujours des églises sur la terre, mais ce ne sera pas la sienne. Parce qu'il s'est choisi une épouse. En ce moment, il se choisit une épouse qui est tirée de toutes ces dénominations chrétiennes. Et il y a beaucoup des gens, beaucoup de personnes, de chrétiens qui ne font plus partie de ces églises, comme nous d'ailleurs, parce que nous avons obéi à l'ordre de Jésus qui dit « Sortez du milieu d'elles pour vous préparer et nous nous préparons pour pouvoir être enlevés. » Mais il y a encore des gens qui sont dans les églises et qui seront enlevés parce que ce sont des âmes qui soupirent, parce que ce sont des gens sincères et qui n'ont pas eu le privilège d'entendre le message de la fin, mais qui sont connus de Dieu. Jésus connaît son épouse. Il connaît les vierges sages. Il n'enlèvera pas les autres, il ne va pas se tromper. Alors, que devons-nous être et que devons-nous faire en attendant cet enlèvement? Nous devons être conscients, c'est-à-dire être éveillés, à l'écoute du Saint-Esprit. Nous avons affaire ce qu'il veut en ces derniers temps. Nous n'avons pas à faire ce qu'il voulait que Noé fasse, ou ce qu'il voulait que Abraham fasse, ou ce que même les premiers chrétiens faisaient. Il y a plus. Mes frères et sœurs, nous avons été tenus en réserve dans le monde des esprits pour édifier le royaume de Dieu durant ce temps-ci. C'est notre heure, c'est notre temps. Je le redis, dans notre passé éternel, avant de venir nous incarner, avant de venir sur cette terre, avant de revêtir un corps de chair, nous avons été tenus en réserve, notre esprit a été tenu en réserve pendant des millions d'années pour pouvoir nous tenir dans la chair dans ces jours-ci, pour édifier le royaume de Dieu en communion avec Jésus-Christ dans ces jours-ci. Alors, vous qui comprenez cela, à quoi vous pensez? Nous avons une guerre à mener. Le diable et toutes ses armées sont unies contre nous. Nous sommes les soldats du roi des rois. C'est vrai que nous ne sommes qu'une petite poignée de personnes, mais regardez l'histoire du plan de Dieu. Il n'y a jamais eu que peu d'hommes et de femmes assez indépendants du système, du monde, ou du système en particulier religieux, pour rejeter le mal et pour servir le Seigneur. Il n'y a toujours eu que peu d'hommes et peu de femmes. Regardez toute l'histoire du plan de Dieu. Alors ne vous découragez pas, mes frères et sœurs, et en particulier vous, de la communauté qui êtes fidèles depuis maintenant 39 ans, vous vous rendez compte, l'année prochaine, on fêtera, si Jésus n'est pas revenu, nous fêterons nos 40 ans de vie communautaire. C'est pas rien, 40 ans de vie communautaire. Alors vous, qui êtes fidèles depuis tout ce temps-là, vous avez été trouvés dignes d'être comptés parmi son peuple. Et vous, qui venez écouter sur Internet et qui êtes fidèles, vous avez été trouvés dignes d'être comptés parmi son peuple. Il y en a beaucoup, on ne les connaît pas, mais Dieu les connaît, vraiment, Dieu les connaît. Alors il nous faut être debout, il nous faut être éveillé, il nous faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit de Dieu pour magnifier notre prêtrise. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres. Nous avons une fonction, nous avons des pouvoirs qui relèvent de cette fonction spirituelle. Il n'y a jamais eu de peuple comme celui-ci. Nous sommes vraiment spéciaux. C'est la dernière dispensation. Alors, des ennemis nous frappent sur la joue gauche et nous leur tendons la joue droite. Ça ne signifie pas que nous ne devons pas nous défendre. Ça signifie, qu'est-ce que Jésus nous dit quand il nous dit qu'il faut tendre la joue droite quand on nous a frappé sur la joue gauche? Ça veut nous dire que nous devons leur dire, allez-y, frappez, frappez, continuez à frapper. Je ne changerai pas. Je ne bougerai pas d'un poil. Frappez-nous. Continuez à nous frapper. Je ne vous rejoindrai pas. Je ne rejoindrai pas votre parti corrompu. Je ne rejoindrai pas vos églises corrompues, votre groupe de mollassons immobiles. Non. Frappez, frappez encore. Je ne changerai jamais. Nous nous sommes engagés à servir Dieu et nous continuerons à le servir selon l'inspiration que le Saint-Esprit donne aujourd'hui à son Église, à sa véritable Église. Et on se fout de votre autorité, à vous les religieux de pacotille, juste bon à balancer je vais arrêter parce que sinon je vais m'énerver. Jésus a suscité des hommes et des femmes pour continuer son œuvre. Dans Ésaïe 53, il est écrit qu'il prolonge ses jours au travers de nous. Les révélations de Dieu que nous trouvons dans la Bible et aussi dans le livre de Mormon, nous ne sommes pas mormons. Mais les révélations de Dieu que nous trouvons là, toutes ces révélations sont en voie d'accomplissement. Et c'est nous qui les accomplissons. Quand je dis nous, c'est pas que notre communauté. Il y en a beaucoup d'autres sur cette terre. Et pendant que les vierges folles, elles dissèquent la parole de Dieu, elles papotent sur YouTube et dans les salons, sur leurs coussinets, n'est-ce pas, dans leur confort, hein, eh bien, nous accomplissons les desseins de Dieu. Mes frères et sœurs, tandis que nous sommes ici, en train de ramener le cœur de nos ancêtres, comme nous l'avons lu là tout à l'heure dans Malachie 4:6, eh bien nous sommes en train de retenir la colère de Dieu contre cette génération perverse. C'est ce que dit ce texte. Il ramènera, Élie, le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. C'est ce que nous faisons par le ministère du baptême pour les morts que Dieu nous a révélé dans 1 Corinthiens 15:29. Et 1 Pierre 4:6, etc., etc. Vous connaissez mon enseignement. Au fait, dimanche, nous allons faire notre 20 000 baptêmes pour les morts depuis le mois de juin pour nos ancêtres, pour nos pères, les ramenant, n'est-ce pas? Pendant que les vierges folles s'activent à brasser de l'air, nous agissons. Afin que Dieu ne frappe pas le pays, comme il est écrit dans Malachie. Qui a pris sur lui d'édifier le royaume? Qui va dans les lieux reculés de la terre pour prêcher l'évangile et guérir les malades au nom de Jésus? Qui? J'en vois pas beaucoup. C'est vrai que, il y en a qui vont, mais attendez. Ils ignorent ces milliers de petits villages éloignés de tout. Ils vont prêcher dans les grandes capitales d'Afrique. Mais ils sont déjà surévangélisés dans les grandes capitales d'Afrique. Vous ne pouvez pas tourner trois pâtés de maison sans trouver une église. Il faut aller là où sont les pêcheurs, dans la brousse, et ça c'est ce que nous faisons. Depuis maintenant 16 ans. Là j'y retourne au mois de janvier. C'est déjà pas mal d'aller prêcher dans les grandes capitales d'Afrique. Bien sûr qu'il y a des gens sauvés, il peut y avoir des gens guéris, Mais ils oublient complètement toutes ces... Parce que ça leur fait peur d'aller dans ces endroits-là. Des millions se perdent dans les ténèbres au fond de la brousse. Et là, tiens, pas de missionnaires. Ah non, non, ils ne sont pas tellement poussés. Ah, il n'y a pas d'hôtel climatisé. Il faut dormir avec les margouillards, vous savez, ces gros lézards, dans les cases, n'est-ce pas? Il faut dormir par terre très souvent, c'est pas rigolo, il fait chaud, il y a des moustiques, et puis, bon, c'est difficile, et ça pue, et tout ça. Et... Ils passent leur temps, alors pendant que nous le faisons, à critiquer, parce que nous exerçons un ministère pour les morts, selon 1 Corinthiens 15-29. Pendant que nous sauvons les vivants, dans des endroits où eux, ils n'osent pas aller, nous nous occupons autant des vivants que des morts. Nous n'avons aucun complexe à avoir. Je n'ai aucun complexe à avoir et je n'ai pas à me justifier devant ces religieux. Simplement, vous, je vous encourage. Ma foi, c'est que nous avons été désignés avant que le monde ne soit créé, nous avons été désignés pour venir dans la chair et prendre en main les choses du royaume de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. Voilà notre situation aujourd'hui. C'est ce que nous faisons. Les yeux des armées célestes sont sur nous. Des armées. Les yeux d'une nuée de témoins sont sur nous. Les yeux du Père sont sur nous alors que Jésus intercède pour nous et que le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, il nous console, il nous rassure, il nous instruit, il nous visite, il observe nos œuvres. Le Saint-Esprit sait que notre destinée est d'édifier ce royaume avec Jésus-Christ ici-bas sur cette terre. Il nous a confié sa parole pour le faire et il nous a donné la prêtrise, la puissance qui va avec la prêtrise pour le faire. Guérissant les malades, ressuscitant les morts. J'étais avec un frère dans un petit village justement de brousse où il n'y a rien. Et là, je devais prêcher. Et puis on nous a appelés sous un arbre. Il y avait un homme, on nous amenait un homme qui était mort. Il avait la bouche ouverte et les mouches entraient dedans. Il avait les yeux révulsés. Il n'y avait plus rien, plus de signe de vie. Il l'avait emmené sur un attaché derrière une mobilette pour sur le dos de son frère, je crois, si je me souviens bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai commandé à l'esprit de cet homme de revenir dans son corps. Ça a pris à peu près quoi, je sais plus, une demi-heure à peu près, mais il est revenu. Il est revenu à la vie. Voilà l'œuvre de Dieu. Voilà ce que nous pouvons faire quand nous sommes chrétiens. Voilà ce que nous avons été appelés à faire, nous avons été mis à part depuis des millions d'années pour pouvoir vivre cette époque, pour pouvoir faire ces choses. La volonté de Dieu, c'est que nous comprenions, que vous compreniez que vous êtes la dernière dispensation. Il n'y a pas de temps à perdre. Il veut que vous compreniez quelles sont vos responsabilités. Que vous êtes les acteurs, ceux qui agissent. Alors vous me direz, oui, mais moi je suis trop vieux, ou moi je suis trop malade, je ne peux pas aller. Vous ne pouvez pas aller. Alors aidez-moi à y aller. Vous avez vu maintenant dans Révélation Bible, on a mis, envoyez vos dons, faites une offrande. Aidez-moi à y aller. Faites une offrande. Elle sera la bienvenue. Ça aidera des gens à être sauvés, à être guéris, à être vêtus, à être nourris. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous adorons faire ça. Vous ne devez jamais perdre de vue, mes frères et sœurs, que toute puissance de ténèbres combinées ne pourront jamais faire échouer les desseins de Dieu. Et alors, ça serait bien que ce soit avec vous que les œuvres de Dieu se fassent et non pas avec d'autres. En ce qui concerne l'œuvre qu'il s'est mis en devoir d'accomplir à l'époque où nous vivons, jamais il renoncera. Il le fera avec ou sans vous. Mais moi, j'aimerais tellement qu'il le fasse avec vous. Mes frères et sœurs, vous devez être éveillés pour comprendre la situation que nous occupons et les devoirs que nous sommes tenus d'accomplir. Parce que Jésus exige certaines choses de nous à notre époque. c'est aussi la volonté de Dieu que vous payiez votre dîme, que vous fassiez les offrandes. C'est la volonté de Dieu. Certains disent que non, la dîme, c'est plus pour aujourd'hui, que c'est plus dans la nouvelle alliance. Oui, ceux qui disent ça, en général, c'est des gens qui ont un petit groupe de trois, hein. Et puis, bien sûr, ils ont leur salaire, et puis voilà, ils ont besoin de rien, ils font rien. Mais quand l'Église veut vraiment faire quelque chose, elle a besoin d'argent, on ne vit pas comme ça. L'Église ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a besoin d'argent pour aller là-bas en Afrique ou n'importe où pour prêcher l'Évangile et donner de l'argent pour nourrir les pauvres. Nous avons donné je ne sais pas combien de tonnes de riz, de nourriture, d'habits, de choses. Ça se fait avec quoi? Avec de l'argent. Ah, Michel, tu parles d'argent maintenant? Oui, je vais vous raconter quelque chose. Il m'est arrivé il y a quelques années, j'étais à Vevey, chez des chers frères et sœurs, des gens que j'aimais beaucoup, qui sont partis dans la gloire maintenant. Et puis, ils m'ont reçu chez eux, ils ont dit à mon épouse et moi, mon épouse était là, on était en train de boire le thé, n'est-ce pas? C'était dans un château. Et puis, il me dit, frère Janton, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Depuis quelque temps, vous faites des appels d'argent, j'aimais mieux avant, vous n'en faisiez pas, et nous aimions mieux cela, et... Vous étiez vraiment dans la foi et vous ne faisiez pas d'appel d'argent. Je dis, ah oui, oui, j'étais dans la foi, je ne faisais pas d'appel d'argent. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Et j'ai posé mon appareil dentaire sur la table au milieu des petits gâteaux qu'on était en train de manger. Et j'ai dit, à cette époque-là, oui, je vivais par la foi. Et je me contentais de manger des raviolis tous les jours pendant 3 ans. Alors j'ai perdu mes dents. Mes frères, il fallait nous dire, on vous aurait aidé. Je dis, ben je vous le dis maintenant. Vous pouvez m'aider maintenant, maintenant. Alors certains diront, oui, voilà, vous avez reçu gratuitement, alors il faut donner gratuitement. Oui, c'est vrai, Jésus l'a dit, c'est vrai, mais... Il y a aussi un autre passage qui dit dans la Bible que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Alors, si ces deux versets vous paraissent contradictoires, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre compréhension des choses de Dieu. Il faut être à l'écoute de ceux qui travaillent, pas de ceux qui font rien. Choisissez votre camp. Vous savez, quand un soldat part à la guerre, il se bat, je ne parle pas d'un mercenaire, je parle d'un soldat, il ne se pose pas de questions, il obéit aux ordres, et il sait ce qu'il doit faire. Et s'il voit que la bataille tourne mal, bah, il ne se dit pas « je crois que ça tourne mal pour nous, je ferais peut-être bien d'aller dans le camp adverse ». Non, jamais. Il se bat, il n'abandonne pas, jamais. Il donne plus que sa dîme là, il donne sa vie pour son pays. Et les chrétiens, soi-disant soldats du roi des rois, chipotent à obéir et fabriquent des doctrines anti-dîmes pour se rassurer le cœur. Ouais, voilà. Ben, voilà, encore une fois, Michel, ça y est, tu nous engueules, tu dis des choses désagréables. Oui, mais... Moi, ce que je veux, c'est votre bien. Je veux que quand Jésus revienne, je veux que vous soyez pris dans l'enlèvement, qu'ils ne vous disent pas qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous étiez. Voilà, alors je parle un peu sec, mais je ne suis pas là pour vous passer de la pommade dans le dos, je suis là pour vous dire la vérité. En Afrique, les Africains, les pasteurs, ils disent, ils m'appellent le pasteur qui crache la vérité. Frères et sœurs, nous serons tenus pour responsables de tout ce que nous ne faisons pas. De ce que nous devons faire. Nous devons être un seul cœur, une seule âme, nous devons être ensemble et ne permettre à quoi que ce soit de temporel ou de spirituel de nous séparer de l'amour de Dieu et de son Église, qui, je vous le répète, ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Nous devons être unis. Nous devons rechercher le bien-être de chacun. Nous devons enseigner les principes de l'Évangile à nos enfants, comme au monde. Et puis nous devons nous préparer pour les événements à venir. Ça ne va pas être drôle. Vous allez voir, ça va pas être drôle. Pour le moment, c'est des actes terroristes. Je vous le dis, bientôt, ça va être une guerre civile. Et puis, ça va dégénérer, ça va déraper en une troisième guerre mondiale. Ça va pas être rigolo. Et l'épouse de Christ sera enlevée in extremis. C'est-à-dire qu'il y aura quand même des moments difficiles. Regardez ce qui se passe dans certains pays où l'islam intégriste fonctionne. Nos frères chrétiens, nos sœurs chrétiens sont persécutés. Vous croyez que ça ne va pas venir ici? Mais vous êtes qui là? Des bisounours ou quoi? Bien sûr que ça va venir ici. C'est déjà là. Ça se réveille. Nous devons enseigner les principes de l'Évangile à nos enfants, comme au monde, et nous préparer pour les événements qui viennent. Dieu ne retirera jamais sa main avant que ses desseins soient accomplis. Est-ce que vous allez être la main de Dieu? Ou est-ce que vous allez être la main du flemmard, la main du destructeur, la main du diviseur, la main du calomniateur, la main du menteur, la main du radin, la main du corrompu? Vous voulez être la main de qui? Vous voulez agir au nom de qui? Pour quelle cause? Nous avons une grande œuvre devant nous, mes frères et sœurs. Et la réalisation de cette œuvre nécessite tous nos efforts, tous nos talents et toute notre capacité, toutes nos capacités. Nous devons aller sur les genoux et demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider, parce que sans son esprit, on ne pourra pas accomplir grand-chose. C'est pourquoi je suis insistant. On arrive au temps de la fin de la véritable Église sur la terre. Elle va être enlevée. Il ne restera plus que les vierges folles qui vont pactiser avec l'ennemi ou mourir. Dans quel camp êtes-vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je sais que je n'ai pas été rigolo aujourd'hui. Mais il fallait que je vous le dise. Il fallait que je vous le dise. Que Dieu vous bénisse. C'est ma prière. Qu'il vous éclaire. Qu'il vous montre que ce que je vous le dis de tout mon cœur à cause de ce que Jésus nous dit en ce moment. Par son esprit, au travers des Saintes Écritures. Que Dieu vous garde. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.